France Culture.
Dès son investiture le 20 janvier dernier, Donald Trump avait ordonné le gel de l'aide étrangère américaine pour une durée de 90 jours. Une décision largement contestée politiquement et juridiquement, mais devenue pérenne lorsque le 10 mars, le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé la suppression de 83% des financements de programmes à l'étranger par l'agence américaine de développement, l'USAID. L'USAID est une organisation criminelle, il est temps qu'elle meure, voilà ce qu'avait déclaré le 2 février Elon Musk à la tête du Department of Governmental Efficiency, le fameux DOJ. Or, cette agence gérait jusqu'ici un budget annuel de 42,8 milliards de dollars et représentait à elle seule 42% de l'aide humanitaire mondiale. Il y a deux jours, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, dont le budget dépend à 14% des États-Unis, a annoncé un trou de 2,5 milliards de dollars, faute d'avoir pu percevoir les subventions américaines. Et derrière les chiffres, des conséquences aussi concrètes que dramatiques. Selon une évaluation publiée le 26 mars dans la revue Nature, l'arrêt de cette aide risque de priver 1 million d'enfants d'accès aux traitements vitaux contre la malnutrition et de provoquer 163 000 morts par an. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. Lutte contre le réchauffement climatique et contre les épidémies, aide aux populations victimes de conflits, tout ce qui avait fait l'essence même de cette aide humanitaire est désormais revu au rabais et des flux de déplacements et d'une hausse de la mortalité sont d'ores et déjà anticipés. Dès lors, une question se pose, qui pourrait prendre le relais? Le problème, c'est que de la remise en question de la légitimité, de la pertinence d'aide versée à des pays étrangers monte un peu partout en Europe, au nom du contribuable notamment, mais surtout dans un contexte de restrictions budgétaires, et ce, avant même l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. C'est le cas au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, en Finlande, en France et j'en passe, où l'aide publique au développement subit une coupe de 2,1 milliards d'euros, soit une baisse de près de 37%. En tout et pour tout, les coupes prévues par la communauté des bailleurs de fonds du secteur, comme on les appelle, entraînent la disparition de près de la moitié des financements publics de l'aide humanitaire. Alors la semaine dernière, Jeff Bezos a annoncé un don de 500 millions de dollars à l'UNICEF en marge du sommet contre la malnutrition organisé à Paris le 28 mars. Mais l'argent privé peut-il remplacer l'appareil public d'aide au développement? Du côté des États, quel risque de voir la logique d'investissement prendre le pas sur celle de l'aide prêtée? Oui, aider un peu moins. L'aide publique au développement est-elle en train de changer de nature au nom d'une certaine efficacité attendue de ces dépenses, faites, elles, pour le coup, au nom de la solidarité? C'est à toutes ces questions que notre table ronde d'actualité du jour va tenter de répondre jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Ludovic Auger. Et trois invités sont autour de cette fameuse table ronde d'actualité. Nathalie Ferrière, vous êtes maîtresse de conférences en économie à Sciences Po Aix et associée à l'AMSE, l'Aix-Marseille School of Economics. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à Aix-en-Provence, donc, et c'est Mathieu Ribaud qui assure ce duplex qu'il en soit remercié. Jean-Michel Severino, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche associé à la FERDI, la Fondation pour les études et recherches sur le développement international. Vous êtes également l'ancien directeur de l'AFD, l'Agence française de développement. Vous l'avez été de 2001 à 2010 et vous êtes aussi l'ancien vice-président de la Banque mondiale de 1996 à 2001. Et vous êtes enfin l'auteur d'un ouvrage, l'aide publique au développement, paru à la Découverte il y a quelques années. Et enfin, Samuel Guérino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également avec nous à distance depuis les studios d'ici à Clermont-Ferrand, grâce à Benoît Allard qui assure la liaison. Vous êtes professeur à l'université Clermont-Auvergne et chercheur au CERDI, le centre d'études et de recherche sur le développement international. Et vous êtes également doyen de l'école d'économie de l'université Clermont-Auvergne. Alors l'annonce de cette réduction drastique de la capacité d'action d'USAID fut un véritable choc. Reste à comprendre pourquoi une telle annonce. Alors le but affiché est de faire économiser près de 60 milliards de dollars aux contribuables, du moins c'est la promesse hein, telle qu'elle a été formulée par Donald Trump et son administration, et mettre fin à des aides considérées comme contraires aux intérêts des États-Unis et de ses habitants. C'est ce qu'expliquait Tammy Bruce, porte-parole du secrétaire d'État Marco Rubio, le 28 mars dernier.
Nous allons réorienter certaines aides américaines du ministère d'ici au 1er juillet 2025 et interrompre les aides américaines restantes qui ne sont pas alignées avec les priorités de notre administration. Ce sont les mots du secrétaire d'État Rubio. L'aide américaine doit protéger nos intérêts nationaux, protéger notre frontière et renforcer nos partenariats avec les alliés clés des États-Unis. Malheureusement, USAID s'est éloigné de ses missions originelles il y a longtemps et les gains étaient trop faibles et les coûts trop élevés. Grâce au président Trump, cette politique mal orientée et fiscalement irresponsable se termine maintenant. Nous réorientons notre aide internationale vers des programmes qui sont en accord avec ce qui est le meilleur pour les États-Unis et nos citoyens. Nous maintenons les programmes qui sauvent des vies et réalisons des investissements stratégiques qui renforcent nos alliés et notre pays. C'est encore une autre promesse tenue pour les Américains.
Samuel Guérino, cette baisse de 83% des financements se traduit par la suppression directe de 5800 programmes d'aide jusqu'ici chapeautés par USAID. Très concrètement, quel est le rôle de cette institution créée en 1961? Par quels canaux intervient-elle? Ce qui va nous permettre aussi de comprendre quelles sont les conséquences d'une baisse aussi drastique.
Alors, USAID, c'est l'acteur, c'est le bras armé, l'instrument de la mise en œuvre de l'aide publique au développement par les États-Unis. Donc c'est comme tous les autres pays qui mettent en œuvre de l'aide, il y a des décisions budgétaires qui sont prises au niveau de l'État et ensuite il y a un instrument USAID aux États-Unis, c'est l'AFD, l'Agence française de développement dans le cas de la France, qui met en œuvre, on va dire, la politique et les financements, les projets.
Et donc ça regroupe un nombre très large de secteurs, un nombre très large d'organisations et de reste très nombreuses organisations sont réellement impactées. On peut citer le cas d'Action contre la faim dont 30% du budget global provenait justement d'USAID et dont 7 programmes sur les 20 financés par les États-Unis sont maintenus seulement. 30% aussi pour l'association Première Urgence Internationale, près de 50% du budget pour l'UNICEF ou le Programme Alimentaire Mondial, 13% pour Handicap International, je cite là quelques exemples parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Jean-Michel Severino, comment expliquer que depuis 1961, une telle dépendance finalement vis-à-vis des États-Unis se soit instaurée initialement au nom de quoi les États-Unis versent cette aide? Mais ça peut surprendre tout de même ces chiffres assez élevés finalement de budgets qui dépendent d'organisations américaines.
Oui, dans la communauté internationale, il s'est organisé avec le temps, avec les décennies, des sortes de spécialisations. Et depuis maintenant longtemps, les Américains ont occupé un créneau particulier dans le domaine de l'appui à la santé et à l'humanitaire, alors que d'autres pays, d'autres institutions multilatérales étaient par exemple davantage dans les sujets de l'investissement. Ce qui n'est bien sûr pas vrai à 100%. D'ailleurs, Donald Trump lui-même, lors de son premier mandat, avait été plutôt un soutien de l'aide publique au développement. Il avait été à l'origine d'une nouvelle institution américaine, le MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui justement fait de l'investissement dans les infrastructures et le développement et qui n'est pas supprimé. Ce qui laisse penser d'ailleurs que l'histoire n'est pas encore écrite. L'administration américaine a annoncé une réorganisation en fait de l'ensemble du système de l'aide avec une consolidation de plusieurs agences à l'intérieur d'une institution qui était préexistante et qui s'appelle le Development Finance Corporation, qui ressemble un peu à l'AFD si on veut. Et les anciennes activités de l'USAID, qui était une agence indépendante, ont été réintégrées à l'intérieur du département d'État. Donc je crois qu'il va falloir... Ce qui est incontestable, c'est que le choc sur la santé humanitaire est énorme. Il n'y a pas de doute, mais les prochaines étapes ne sont pas encore écrites. Il n'est pas non plus exclu que l'administration américaine réalimente les budgets des structures qui ont été refondues. Il va falloir voir comment ça va se passer, parce que si vous l'avez noté, je vais m'en arrêter là, en fait la critique institutionnelle de l'administration américaine actuelle ne part pas tant sur la légitimité en tant que telle de l'aide, mais plutôt les orientations politiques qui avaient été prises par l'USAID.
Et on va voir effectivement qu'il y a une dimension idéologique assez forte, Nathalie Ferrière. Cette domination des États-Unis est non seulement financière, on le voit, ça représente de très gros pourcentages pour les budgets de certaines organisations, mais elle est aussi politique, diplomatique. Dans quelle mesure faut-il craindre une sorte d'effet d'entraînement des autres pays qui verraient là une sorte de signal? Bon, bah, puisque les États-Unis rabotent leur budget, on va faire pareil. Et dans la mesure où les États-Unis pouvaient aussi servir de filet de sécurité ou en tout cas de soutien financier, dans quelle mesure on peut craindre que tout le monde suive finalement cette voie?
Alors, je vais rebondir sur les propos de Jean-Michel aussi, sur le côté spécialisation en santé reproductive, parce que là, on a un exemple particulièrement intéressant pour voir ces effets d'entraînement potentiel, parce que depuis 1984, en fait, ce qu'on observe du côté de la politique américaine, c'est que pour la santé reproductive, on a des changements de politique entre les gouvernements républicains et les gouvernements démocrates, avec de grosses baisses d'aide dès avant maintenant, en cas de président républicain. Et ce qu'on observe, en fait, c'est réellement un effet d'entraînement, pas à court terme, sur la première, deuxième année, certains autres bailleurs de fonds essaient de compenser, mais au bout de 2-3 ans, on a un effet de... on suit la politique des États-Unis. Et donc, pour rebondir encore sur ce que disait Jean-Michel Severino, cette idée d'attendre de voir ce qui va se passer, c'est d'autant plus intéressant que dans le passé, on a déjà eu des cas de coupes où on a pu observer et on a un effet d'apprentissage. Les ONG, les autres bailleurs de fonds étaient bien inquiets bien avant janvier 2025 sur ce côté santé reproductive et avaient anticipé l'arrivée aussi un petit peu de Donald Trump au pouvoir.
Et on le voit, ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites, Nathalie Ferrière, c'est que de fait, tous les secteurs ne vont pas être impactés de la même façon. Vous parliez de la santé reproductive et de fait, c'est un des secteurs qui est dans le viseur de ces baisses drastiques de budget. Samuel Guérino, on a parlé de l'aspect très financier des choses et c'est du reste qui va nous occuper pendant toute l'émission. Je reviens tout de même sur ce rôle politique, mais aussi diplomatique. Les États-Unis, ce sont certes un certain pourcentage des budgets, mais c'est aussi un poids au sein des organisations internationales, un poids décisionnel. Dans quelle mesure c'est aussi un risque de désorganisation globale de la simple prise de décision au sein de ces institutions qui apparaît là?
Alors c'est vrai que les États-Unis ont un double rôle, d'une part naturellement par leur poids, et d'autre part par le rôle qu'ils ont dans les institutions internationales, et en particulier la Banque mondiale. Et donc, même si le processus de décision au sein de ces institutions internationales est délégué à un board, à un conseil d'administration qui regroupe les principaux donateurs, eh bien, la capacité des États-Unis à influencer la ligne ou à organiser même à l'intérieur de restructurer la Banque mondiale est un peu une source d'inquiétude, hein, même si formellement, l'organisation, le côté institutionnel, ne leur permet pas de décider seul.
Oui, une forme de veto absolu. Jean-Michel Severino, est-ce que tout de même, il y a vous qui connaissez bien aussi la façon dont fonctionnent ces institutions-là, et en particulier la Banque mondiale, est-ce qu'il y a un risque effectivement les États-Unis puissent jouer un rôle de frein aussi en termes de prise de décision, aussi en termes d'élaboration des stratégies?
Oui, alors d'abord, il y a des scénarios extrêmes, même s'ils n'ont pas encore été mis en œuvre et même si pour l'instant l'administration américaine ne les a pas évoqués, qui sont tout simplement le retrait. C'est simple juridiquement et même financièrement pour les États-Unis de se retirer, par exemple, de la Banque mondiale et d'autres banques de développement. Sans aller jusque-là, ils peuvent quand même avoir des influences très importantes dans la définition programmatique. Ils peuvent manier, par exemple, l'arme de leur contribution aux instruments, aux fonds concessionnels de ces institutions. Par exemple, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ont des volets de subventions qui sont alimentés par les pays volontaires. Les Américains sont un très gros contributeur à ces volets subventions qui accompagnent l'activité bancaire de ces institutions multilatérales. Et donc, ils peuvent mettre des conditions. Et puis, par ailleurs, ils sont évidemment un acteur au poids politique très important dans les discussions de substance. Et on peut s'attendre à ce que, non seulement sur les sujets de santé reproductive, comme le disait Nathalie, mais aussi, et plus particulièrement sur le sujet climat, on est une chasse à la simple évocation du thème, partout.
Et du reste, des questionnaires ont été envoyés aux organisations concernées, un questionnaire qui cherchait à comprendre dans quelle mesure finalement l'action menée sur le terrain correspondait ou non au programme de Donald Trump intitulé America First, et donc qui mettait de fait en avant ce qui était considéré comme les intérêts américains, avec des questions qui laissent pas tellement de place au doute. Votre projet a-t-il un impact bénéfique mesurable pour l'industrie américaine, l'emploi ou l'économie américaine? Comment votre projet contribue-t-il à lutter directement contre les influences néfastes dont celle de la Chine. Comment votre projet permet-il de lutter contre l'immigration illégale aux États-Unis ? Nathalie Ferrière, on voit bien là qu'il y a une forme de conditionnalité qui est exprimée très très clairement, qui est véritablement assumée. Est-ce que c'est pour autant contraire au principe même de l'aide humanitaire ? Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce qu'il y a des normes qui pourraient interdire dans l'absolu ce genre de questions ou ce genre de conditionnalité ?
Alors, sur la conditionnalité, on a eu des engagements à essayer de réduire ces conditionnalités avec l'idée sous-jacente que mettre des conditions rendrait potentiellement l'aide moins efficace, même si certains papiers théoriques montrent aussi que mettre des conditionnalités peut être un moyen de conserver une complémentarité de l'aide par rapport au budget des pays receveurs et donc s'assurer d'un complément et pas d'une substitution entre des budgets locaux et de l'aide au développement. Donc sur la conditionnalité, en fait, la littérature économique est plutôt partagée sur l'impact ou non en termes d'efficacité.
Et de fait, Donald Trump ne s'est pas privé dans l'absolu. Jean-Michel Severino, il y a quand même un point sur lequel je voulais revenir. J'ai cité beaucoup d'organisations souvent non gouvernementales dont le budget dépend beaucoup de celui de USAID. En revanche, il y a d'autres organisations qui ont fait d'autres choix. Et on peut citer par exemple le budget de Médecins du Monde, qui dépend seulement pour 4% de son budget de USAID, car ils avaient déjà renoncé aux subventions américaines lors du premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2021. Est-ce que c'est là un choix véritablement ? Est-ce que c'est une sorte de luxe que toutes les organisations ne peuvent pas se permettre ? Parce que je voudrais vraiment comprendre comment on en arrive à des situations où la moitié du budget d'une organisation dépend des aides américaines.
Oui, il y a des choix stratégiques extrêmement différents dans le monde des organisations non gouvernementales. Il y a des organisations comme MSF qui ont pour principe de ne pas recourir aux fonds publics, quelle que soit leur origine. Il y en a d'autres, je pense par exemple à ACTED, qui ne font quasiment que engager des fonds, en l'occurrence pour eux, de l'Union européenne dans le cadre de l'humanitaire. Et puis il y a d'autres organisations qui ont des stratégies plus partagées. Donc il y a une très 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 grande diversité et je pense qu'on ne peut pas reprocher a priori à des organisations qui interviennent par exemple dans le champ de l'humanitaire ou de la santé, et je pense tout particulièrement à la question de la lutte contre le sida, d'avoir noué au fil du temps des partenariats extrêmement étroits avec l'USAID, qui a des grands agents de la lutte contre le sida à l'échelle mondiale.
Et de fait, on a évoqué, il y a de très nombreux secteurs qui vont être impactés. Une désorganisation globale, c'est du reste ce qu'est allé voir sur le terrain France 24. Des salariés de Médecins du Monde, justement, témoignaient dans ce reportage diffusé le 25 mars dernier.
Nous sommes devant un refuge pour migrants à Tenosique, non loin de la frontière avec le Guatemala. La plupart de ces migrants ont parcouru des milliers de kilomètres dans des conditions très précaires. Les maladies respiratoires ou tropicales comme la dengue sont courantes. Mais avec l'arrêt brutal du financement d'USAID, tout ce travail est aujourd'hui en péril.
On a une responsabilité envers nos patients. Alors tout arrêter du jour au lendemain, alors qu'on traite des cas sévères qui ont besoin d'un accompagnement psychologique, c'est leur dire « Désolé, on ne va plus te recevoir en consultation ». Ça revient à les abandonner.
Aide aux migrants, lutte contre les violences de genre, accès à l'avortement. Les valeurs de l'ONG sont à peu près toutes parmi celles que l'administration américaine cherche à anéantir.
On avait quand même des engagements. On parle d'un projet qui devait durer jusqu'à 2026. Arrêter un projet sous 24 heures, arrêter des financements sous 24 heures, pour moi, on a perdu toute rationalité. Chez Médecins du Monde, on lutte depuis des années pour plus de justice sociale. On est complètement à l'inverse. C'est tout le système de coopération internationale, de solidarité internationale, qui est en train d'être remis en question.
L'ONG a décidé de continuer ses activités sur fonds propres jusqu'à fin avril, mais sans nouveau financement, ils ne pourront sans doute pas aller au-delà.
Médecins du Monde, on l'a dit, est une organisation dont le budget ne dépend qu'à 4% des États-Unis, en tout cas d'USAID. Ils ont malgré tout dû fermer une douzaine de cliniques en Syrie. De la même manière, Médecins sans frontières, on l'a dit, dont la doctrine, ou on va dire le principe même, est de ne pas dépendre d'aide publique, a vu ses centres saturés sans possibilité de renvoyer les populations vers d'autres associations. Là, c'est important de le comprendre, Samuel Guérino, c'est que qu'on dépende ou non des aides américaines, il y a finalement des effets de chaîne, c'est effectivement tout le tissu de l'aide humanitaire qui est menacé, qu'il soit dépendant directement ou non du financement américain.
Oui, il y a une grande interdépendance des différents acteurs, et puis il y a un niveau des besoins qui font que finalement c'est la conjonction de l'action de beaucoup d'acteurs qui permet de régler en partie les problèmes, même si c'est imparfait. Et donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on parle d'efficacité. C'est que ça a été indiqué par l'intervenant. Quand on coupe brutalement un programme, c'est vrai pour la santé, mais c'est vrai aussi pour d'autres types de programmes, en fait, on gaspille beaucoup de ressources. Donc même sur le critère de l'efficacité, indépendamment de l'opportunité de privilégier tel ou tel secteur, c'est très très destructeur et très coûteux de couper des projets en milieu de, enfin, au milieu du guet. Et pour revenir un petit peu aussi à l'objectif d'avoir des financements alignés avec les intérêts des États-Unis, il y a une grosse difficulté ou une grosse ambiguïté sur à quel horizon temporel c'est dans l'intérêt des États-Unis, puisque en partie, eh bien, il y a des choses qui peuvent coûter à court terme et qui, par contre, ont des grands bénéfices à beaucoup plus long terme. Donc, on peut penser à des politiques liées à la santé et qui vont avoir des impacts plus longs en termes de migration ou de santé à l'échelle mondiale. Et puis aussi, simplement, de réputation. Les États-Unis, en coupant brutalement leur aide, eh bien, vont perdre beaucoup, prennent le risque, en tout cas, de perdre beaucoup d'influence dans certaines régions du monde où la parole des États-Unis, elle était critiquée, mais elle va être, disons, dévalorisée.
Et effectivement, on voit qu'il y a une perspective de long terme qui commence à se dessiner, et notamment dans la recherche, et vous le disiez, dans le domaine de la santé. Et puis, il y a cette question de la visibilité pour les organisations internationales qui, peut-être, comme le disait Jean-Michel Severino, s'attendent à un potentiel retour de l'administration Trump vers eux, mais ils ne savent pas dans combien de temps ni pour quelles raisons. Donc, ça génère quand même beaucoup d'incertitudes. On pourrait se dire, Jean-Michel Severino, si on voudrait être un petit peu optimiste, on pourrait se dire que d'autres pourraient prendre le relais, et d'autres à commencer par l'Union européenne. Sauf que, et c'est ce que je disais en introduction, le mouvement est global. De très nombreux pays d'Europe ont annoncé des baisses de leur budget d'aide au développement. Fin février, le Royaume-Uni a annoncé une baisse du budget d'aide publique au développement de 0,5% du revenu national brut à 0,3% d'ici 2027. C'est son plus bas niveau depuis 1999. Alors l'argument, c'est il faut financer les efforts de dépenses et les dépenses en termes de défense. Les Pays-Bas, début février, eux, ont dit qu'ils réduiraient de 2,4 milliards d'euros leurs dépenses annuelles à partir de 2027 pour redéployer leurs efforts vers la défense des intérêts néerlandais dans les domaines du commerce et de l'économie, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que de la migration. Bref, c'est un mouvement général. Est-ce que pour autant, Jean-Michel Severino, il y a une forme de différence quand même à opérer, à bien distinguer les arguments des États-Unis qui sont autour du programme America First et ce qui se passe en Europe qui est peut-être plus conjoncturel, plus lié de fait aux efforts de dépenses, à des situations budgétaires plus tendues. Est-ce que les deux sont vraiment bien à distinguer ?
Je crois, mais même à l'intérieur de l'Union européenne, les motivations ne sont pas les mêmes selon les pays.
On le voit notamment avec les Pays-Bas.
De l'évoquer à la simple. Par exemple, en France, où nous avons une réduction drastique de l'aide sur le budget 2025, je dirais qu'on est au niveau zéro de la pensée politique. Hein. Le gouvernement a coupé la dépense budgétaire où il s'attendait à ce qu'il y ait le moins de gens dans la rue pour faire une manifestation. Et je crois que ça ne va pas plus loin que ça. Ce qui n'est pas à la gloire de notre gouvernement. Maintenant, sur d'autres pays, il y a davantage d'articulation de long terme, ne serait-ce que parce que, par exemple, comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne, ils ont présenté des perspectives budgétaires, certes en décroissance, mais étalées sur plusieurs années avec une réflexion où on a davantage de lisibilité. Il y a quand même beaucoup moins en Europe, néanmoins, pour nuancer ce caractère différencié, d'attaques sur le principe même de l'aide, et pas forcément d'opposition aussi violente qu'aux États-Unis entre les intérêts nationaux et l'aide. Et peut-être parce que chez nous, dans le continent européen, il y a davantage eu historiquement un alignement entre les volumes d'aide et la perception que celle-ci était aussi dans l'intérêt des pays donateurs.
Y compris de la part de la population, en général, cette idée d'avoir un intérêt qui est bien desservi par le versement d'aide et perçu de façon générale.
Alors, en Europe et particulièrement en France, où l'opinion publique est régulièrement sondée sur ces sujets par des
par l'Eurobaromètre,
on a un très fort soutien à les politiques d'aide au développement, même aujourd'hui. Et il y a autant il y a une assez mauvaise appréciation de la part du grand public sur les volumes de l'aide. Sur à quoi elle sert précisément, Autant il y a une assez bonne compréhension, je dirais globale, du fait que c'est à la fois éthiquement bien de le faire et que c'est aussi, au meilleur sens du terme, dans notre intérêt. Hein, sans forcément qu'il y ait, dans ce qu'on perçoit en comptant les sondages, des revendications de la majoritaire de la population sur des retours immédiats en termes de commerce extérieur, etc., même si ça peut exister aussi.
Oui, ce n'est pas nécessairement l'idée d'un retour sur investissement direct, mais en tout cas l'idée d'une présence qui serait globalement bien comprise, ou en tout cas... on va dire perçu par l'opinion publique. Cela dit, ces coupes sont tout de même assez brutales. Alors on l'a dit pour des raisons, enfin vous l'avez dit Jean-Michel Severino, pour des raisons qui dépendent fortement, on va dire, de la stratégie de chaque gouvernement. Ça n'empêche que au global, ça fait des coupes extrêmement brutales et d'autant plus brutales, Nathalie Ferrière, que jusqu'ici les budgets ne cessaient d'augmenter. Ils sont passés de 80 milliards de dollars en 2000 au montant record de 223,3 milliards de dollars en 2023 selon les derniers chiffres de l'OCDE. Comment comprendre une telle augmentation ? Est-ce que c'est une adhésion de fait de plus en plus massive au concept, ou une augmentation des besoins, ou est-ce que c'est très mécaniquement et assez bêtement, on va dire, une augmentation des PIB de chacun des pays, et donc, vu que c'est une question de pourcentage, de fait, l'aide au développement augmente d'autant ?
Alors, j'y verrais deux effets principaux. D'abord, un effet de, oui, les besoins augmentent, et je suis pas sûr que l'augmentation de l'aide publique au développement était aussi importante que l'augmentation des besoins. Et je pense qu'il y a aussi un effet à partir de 2000, des objectifs, d'abord des objectifs du millénaire, puis des objectifs du développement durable, qui ont permis aussi de lancer un mouvement avec des cibles chiffré ou en tout cas bien explicite de qu'est-ce qu'il faut atteindre comme développement dans certains pays, qui ont permis aussi de mobiliser malgré tout certains bailleurs de fonds qui pouvaient être un peu plus réticents à augmenter leur budget. On arrivait d'une décennie qu'on avait appelée de fatigue de l'aide, où l'aide dans les années 90 était fortement remise en question, et là on a eu un nouveau souffle avec les objectifs du millénaire, puis les ODD, les objectifs du développement durable, pour relancer cette machine un peu de l'aide au développement et pour améliorer le développement dans, au début, tous les pays du Sud et après l'ensemble des pays.
Samuel Guérino, sur cette question, vous souhaitiez réagir ?
Oui, pour prolonger ce qu'a dit Nathalie Ferrière, une partie de la relance de l'aide à partir des années 2000 et des objectifs du millénaire pour le développement, c'était aussi des constatations de qu'est-ce qui se passait lorsque on réduisait les flux d'aide de manière assez importante, comme ça a été fait dans les années 90.
Alors juste une petite parenthèse, Samuel Guérino, peut-être qu'il faut nous expliquer pourquoi cette fameuse fatigue de l'aide, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 et qu'est-ce que ça dit de l'instabilité aussi potentielle de ces aides ?
Alors, moi, j'y vois la conjonction de deux facteurs. Il y a un facteur clairement géopolitique qui est que, avec la fin de la menace du bloc communiste et de la contagion pour les pays en développement, un des motifs de l'aide, qui était d'éviter que des régimes, disons, à obédience soviétique se mettent en place, cette menace-là et ce motif-là n'existait plus. Ça, c'est une raison géopolitique. Et puis, il y avait des débats sur l'efficacité de l'aide, après plusieurs décennies d'aide où les résultats semblaient décevants. Et puis combiné un troisième facteur qui était plutôt d'ordre idéologique, avec une montée en puissance d'idées plus libérales sur le fait que l'intervention de l'État devait être réduite.
Donc, à la fin de cette décennie 90, on cherche à relancer quelque part la machine. Et c'est ce que nous disait Nathalie Ferrière aussi, grâce à un certain nombre de normes, d'objectifs fixés. Ça a plutôt bien fonctionné, Samuel Guérino. Samuel Guérino, on a perdu la liaison avec vous, mais ça tombe bien parce que Jean-Michel Severino, vous souhaitiez également réagir sur cette question de la façon dont en 2000 se sont structurées aussi ces aides et d'expliquer ce dynamisme des dernières décennies.
Oui, alors j'adhère tout à fait à ce que à la fois Nathalie et Samuel ont dit. En ce qui concerne les années 90, alors ça n'engage que moi, le plus, je crois que on a voulu on a utilisé le prétexte de la rage pour tuer le chien, et donc de l'inefficacité pour attaquer une politique qui était en fait largement fondée, comme Samuel l'a dit, sur à la fois le complexe néocolonial et le containment antisoviétique. Bon. Maintenant, sur la période plus récente, qui démarre en gros aux années 2000, Entre le début des années 2000 et maintenant, l'aide publique au développement a été multipliée par 3, ce qui témoigne à la fois d'une augmentation des volumes du PIB des pays donateurs, mais pas seulement, puisque le volume du PIB des pays donateurs n'a pas été multiplié par 3, mais aussi d'un taux d'effort de ces pays donateurs. Et moi, j'y vois beaucoup l'émergence des problématiques de ce qu'on appelle les biens publics globaux, c'est-à-dire des sujets d'intérêt commun de l'humanité, le réchauffement climatique, la lutte contre les grandes pandémies, qui ont été un très grand moteur de financement par les pays industrialisés, parce qu'ils voyaient dans ces sujets, et c'est là qu'on rejoint la thématique de l'intérêt, à la fois l'intérêt des pays bénéficiaires, mais aussi notre propre intérêt. Il est clair que dans la lutte contre le sida ou la tuberculose, tant qu'on n'aura pas éliminé le dernier virus quelque part sur la planète, nous-mêmes, nous ne serons pas dans une situation simple. Et quant au réchauffement climatique, l'idée s'est imposée qu'il fallait faire la chasse au carbone là où c'était le plus efficace de le faire, et donc il était moins coûteux de réduire, par exemple, les émissions fossiles dans les pays à revenus intermédiaires qu'en France, qui explique d'ailleurs, y compris chez nous, les prêts du groupe de l'AFD à ces sujets dans des pays à revenus intermédiaires. Et par ailleurs, pour sans vouloir être trop long, sur le plan de l'adaptation, on a fait assez vite le lien entre les problèmes accrus des pays en développement, particulièrement les pays les plus pauvres, à faire face aux conséquences du changement climatique, et des problèmes pour nous, comme par exemple l'immigration.
Et on voit qu'il y a cette prise de conscience que ce sont effectivement des sujets globaux.
Donc je crois que vraiment dans les années, c'est pour ça que d'une certaine manière, cette attaque américaine sur le thème des intérêts de l'Amérique est quelque part surréaliste et complètement idéologique. Parce que s'il y a une période où s'est imposée l'idée des intérêts communs, c'est bien cette période des 20 dernières années. Et le compact intellectuel qui entourait ça semblait d'une grande solidité, d'une grande cohérence, d'une grande rationalité et d'une grande simplicité, et d'ailleurs compris très largement par les opinions publiques.
Oui, on voit que le lien est effectivement assez facile à établir, et en tout cas assez facilement appréhendable, on va dire. Mais bon, est-ce que forcément toutes les décisions de Donald Trump répondent à une forme de rationalité, rien n'est moins sûr. Nathalie Ferrière, on a beaucoup parlé d'aide publique au développement, et on a commencé à évoquer ce début d'histoire aussi, alors à partir des années 90, mais pour bien remettre le cadre aussi de ce en quoi consistent ces aides publiques au développement, comment elles ont été justifiées et mises en place, il faut quand même remonter aux origines presque de la chose. C'est un terme qui a été formalisé en 1969 par le comité d'aide au développement de l'OCDE qui est créé en 1961, la même année que l'USAID. Que s'agissait-il alors de mettre en place? Comment cette aide publique au développement est conçue à ce moment-là?
Alors, je reviendrai même un petit peu avant, pas forcément sur le terme, mais le départ même de l'aide au développement, on peut le mettre dans le discours de Truman en 53 et son point 4, où d'un coup, il lance cette idée de il faut aider les pays en sous-développement, il faut contribuer à éradiquer la pauvreté, à apporter de la technologie, de l'innovation dans les pays en sous-développement. C'est les termes qu'il utilisait. Et donc après, oui, ça s'est structuré plus au niveau international via le comité d'aide au développement chapeauté par l'OCDE, avec au début principalement des pays du Nord et petit à petit d'autres pays qui ne sont pas membres officiels, mais qui à minima transmettent les informations sur leur aide au développement et sur leur politique publique d'aide au développement. Et donc en termes de définition d'aide au développement, pour revenir à votre question, c'est avant tout malgré tout des prêts, mais des prêts concessionnels, donc à des taux inférieurs au taux que aurait pu obtenir un État s'il avait été sur le marché privé.
C'est très important.
Après, il y a une partie aussi don, mais qui est bien moins importante que cette partie prêt.
Oui, c'est très important de faire cette distinction entre effectivement ce qui relève du don sans attente de retour, on va dire, et ce qui relève du prêt, et donc davantage de l'action d'une banque, d'où la Banque mondiale et d'où le fait que l'AFD joue aussi également ce rôle. Samuel Guérino, et pour continuer à élaborer, avoir une vision globale aussi de la façon dont ces aides se structurent, il y a à la fois donc cette nature de l'aide-là, on l'a dit, entre don et prêt, mais il y a aussi deux échelles qu'il faut bien comprendre. entendre, il y a à la fois une aide bilatérale et puis une aide qui est mise en place au niveau multilatéral. Ça, très concrètement, comment c'est encadré au niveau multilatéral? Est-ce que il faut comprendre que les États, d'un côté, sont bien libres de mener la politique qu'ils entendent mener, mais qu'en plus de cela, ils ont un certain nombre d'obligations, notamment dans le cadre de l'OCDE, et ce qui engage un certain niveau de coopération? Est-ce que les deux échelles sont vraiment à distinguer et n'ont pas vraiment grand-chose à voir l'une avec l'autre?
Alors effectivement, il est important d'avoir en tête que l'action des États en fait peut s'exercer avec deux instruments, on pourrait dire presque trois, c'est-à-dire que soit tout le financement vient des États, ça il y a pas de, c'est bien la France, les États-Unis ou chacun des États qui vont contribuer à ces projets, à ces financements d'aide au développement, mais ensuite pour les mettre en œuvre, eh bien soit les pays les mettent en œuvre eux-mêmes, donc on va parler d'aide bilatérale, soit on va dire ils confient ce financement à une institution multilatéral, et donc il contribue globalement au budget de cette institution. Et donc là, on va parler d'aide multilatérale, et dans ce cas-là, entre guillemets, ils font confiance à l'institution pour mettre en œuvre, pour déterminer les priorités et pour mettre en œuvre. Et c'est peut-être l'occasion de revenir sur un des points qui a été évoqué, sur comment est-ce qu'on a réussi à augmenter aussi beaucoup l'aide sur les 20 dernières années. C'est que c'est développé un troisième instrument qui peut sembler un peu barbare, l'aide bimultilatérale. Qui consiste à confier de l'argent aux institutions multilatérales, à des opérateurs internationaux, donc qui vont la mettre en œuvre, mais en gardant en partie la main sur ce qui va être ciblé, et donc en disant voilà, je confie l'argent à une institution internationale, mais pour faire tel ou tel type de financement, de la santé, avec des objectifs précis. Et ça, c'est une manière de faire une sorte de compromis entre un financement, des objectifs nationaux et une mise en œuvre au niveau multilatéral.
Donc on voit que c'est cet outil aussi qui a permis cette forme de dynamisme dont on parlait effectivement à l'instant. Jean-Michel Severino, si on veut faire le bilan et bien comprendre, en fait quand on parle d'aide publique au développement, c'est à la fois des politiques en tant que telles, une forme de stratégie on va dire, où on essaie de mettre plus ou moins tout le monde autour de la table, mais aussi un instrument de transfert financier. Ce sont les deux à la fois qu'il faut comprendre.
Bien sûr, transfert financier et transfert de capacité, puisqu'on cherche à accroître la productivité si on veut garder l'intérêt économique des pays dans lesquels on intervient, et ça débouche aussi sur à la fois des améliorations de politique publique, mais de la formation, de l'accroissement des performances, on va dire, humaines. Hein. Peut-être un petit mot pour compléter ce que disait notamment Samuel sur le bimulti, etc. En fait, ces organisations auxquelles on confie des fonds ou au capital desquels on contribue, elles ne sont pas laissées dans la nature. D'une part, il y a les conseils d'administration, tout le dialogue politique autour du financement de ces institutions. Et la France, par exemple, si on prend le cas de la Banque mondiale, est extrêmement active au sein du conseil d'administration de la Banque mondiale, mais aussi par des nombreux biais d'accompagnement. Pour en citer un seul, le groupe de l'AFD est le premier cofinanceur de la Banque mondiale à l'échelle planétaire. Et en fait, c'est un levier d'influence important parce que, à travers ces cofinancements, on se met d'accord avec la Banque mondiale sur les objectifs des prêts avec le pays bénéficiaire, puisque là, il s'agit pour l'essentiel de prêts, et on essaie d'aligner l'institution multilatérale sur les intérêts et les visions de la France. Et il se trouve que je viens de finir un exercice de présidence du comité de pilotage d'évaluation de l'AID, qui est le bras concessionnel de la Banque mondiale pour la France. Et le sujet, c'est une évaluation qui a été faite de manière partenariale et dont les conclusions vont être affichées et partagées de manière complètement ouverte. Et une question cœur de cette évaluation était: est-ce que la stratégie de la Banque mondiale et est-ce que les contributions du coup que nous y faisons sont bien alignées, alors on va dire sur les intérêts de la France, mais ce ne sont pas des intérêts ici commerciaux au sens étroit du terme, c'est nos visions stratégiques, nos visions politiques, les destinations géographiques, les thématiques sectorielles, les types de résultats que nous recherchons, dans cette perspective d'intérêt commun.
Et qui sont aussi de fait diplomatiques. Nathalie Ferrière, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voulais compléter sur le multibi, ce qu'a pu dire Samuel Guérino, pour expliquer que c'est aussi un moyen peut-être plus facile d'entraîner des levées de fonds du secteur privé en ciblant un secteur ou une zone géographique, et que ça avait été aussi pensé pour attirer et mobiliser des fonds privés.
Et ça a fonctionné, Nathalie Ferrière, ça a effectivement eu cet effet d'appel, on va dire.
Alors, sur certains fonds, oui. J'ai en tête le fonds Gavi sur la vaccination qui a eu beaucoup. J'ai pas les chiffres et la proportion en tête, mais qui a réussi à mobiliser pas mal de fonds privés qui n'auraient peut-être pas été mobilisés par ailleurs.
Donc il y a à la fois les objectifs qui évoluent aussi en fonction, et on l'a dit, en fonction des besoins et puis des problèmes identifiés, notamment celui du réchauffement climatique qui arrive sur la table. Il y a aussi une évolution dans les instruments, on vient de l'évoquer avec vous. Et justement, pour bien comprendre aussi ce rôle des instruments et puis de la façon dont ils entendent se réclamer d'une certaine efficacité, et puis comprendre aussi comment l'efficacité est mesurée entre l'échelle micro et l'échelle macro, je vous propose d'écouter l'économiste Esther Duflo, qui était au micro de Frédéric Martel sur France Culture le 23 février dernier et qui revenait sur l'ambition du Fonds pour l'innovation et le développement, le FID.
Fin 2020, le FID a été créé, le Fonds pour l'innovation et le développement, précisément avec cette idée de s'assurer que les fonds publics de la collaboration soient les plus efficaces possibles. Et ce fonds est d'ailleurs à une espèce de grande sœur dans un fonds Development Impact Venture qui a été créé à l'USAID et qui a disparu avec le reste de USAID. L'idée du FID, c'est d'utiliser de l'argent de manière à aider chaque partenaire, que ce soit un gouvernement, une ONG, un centre académique, à innover et à évaluer l'impact de ces innovations. Pourquoi cela est-il important? Parce que quand vous innovez, que vous montrez que ce que vous faites est efficace, cette innovation peut être généralisée et appliquée de manière beaucoup plus large par d'autres. Ce que, par exemple, le Development Impact Venture a pu montrer dans le cadre de l'USAID, c'est que chaque dollar investi par le DIV produisait 73 dollars de biens publics en termes de vie améliorée ou prolongée. Donc, il y a un ratio d'efficacité des fonds publics qui est énorme. Pourquoi? Parce que chacun de ces projets qui est financé est une leçon qui ensuite peut être appliquée par les gouvernements et les partenaires locaux.
Un ratio d'efficacité des fonds publics qui est énorme, donc selon Esther Duflo. Jean-Marc Severino, c'est vrai, ces fonds-là sont des outils particulièrement efficaces?
Alors d'abord, je vais avoir d'autant plus de difficultés à critiquer ce que disait Esther Duflo que je suis au conseil d'administration du FID. Et donc je peux témoigner que tout ce qu'elle dit est absolument exact. Il s'agit d'un magnifique instrument de promotion de l'expérimentation et ensuite du passage à l'échelle. Quand on parle d'efficacité, néanmoins, alors je crois qu'il faut faire un petit peu de pédagogie. Le problème de l'aide publique au développement, c'est que c'est un concept ou une catégorie statistique qui recouvre des carottes, des navets et des choux. Quand on parle de l'aide publique au développement française, par exemple, sur les 14 milliards à peu près d'euros de 2024, il y en a à peu près 57%, soit un peu plus de 7 milliards qui est sur de l'aide bilatérale. Et là-dedans, il y a tout le coût des étudiants étrangers en France, le coût de la première année de l'asile politique, il y a les établissements français culturels à l'étranger, il y a le coût des organismes de recherche comme le CIRAD, l'IRD qui est très considérable, il y a les prêts du Trésor, etc. etc. Donc en fait, ce sont des dépenses qui n'ont rien à voir. Et en fait, plus de la moitié de l'aide publique au développement française, elle est dépensée sur le sol français, à tel point qu'on a dû inventer d'autres catégories que l'aide publique au développement pour essayer de mesurer ce que sont les transferts effectifs aux pays bénéficiaires. Et sans abreuver nos auditeurs de technique, la France a été amenée à adhérer à un consortium de pays donateurs qui recoupe tous les grands pays et qui ont inventé un autre concept qui s'appelle le TOSDI. Alors voilà, et TOSDI, et l'intérêt du TOSDI, c'est d'essayer à l'intérieur des masses qui sont déclarés, qu'est-ce qui ressort du transfert effectif et qu'est-ce qui, par ailleurs, contribue au développement mais n'est pas déclaré non plus dans les publics au développement. Et pour vous donner deux chiffres, et je vais m'arrêter là, ce que ce consortium auquel la France participe officiellement. Hein. Ce n'est pas une bande d'ONG amatrice ou critique, etc. C'est que sur les fameux 14 milliards que nous déclarons en aide, seulement environ 7 milliards correspondent à des transferts effectifs qui vont aller dans les pays en développement. Mais par ailleurs, on peut estimer à environ 24 milliards de dollars, toujours sur l'année 2024, toutes les contributions diverses que la France peut faire au développement.
Et juste une petite parenthèse, Jean-Michel Serino, dans quelle mesure, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'OCDE préconise un niveau de dépense de 0,7% du revenu national brut des pays concernés, de fait, en termes d'aide publique au développement. Vous l'avez dit, ces dépenses-là, elles sont extrêmement diverses. Est-ce que toutes sont incluses dans ce calcul des 0,7%?
Oui. Ah oui, donc par exemple, le coût des étudiants étrangers en France, lorsque vous avez un étudiant brésilien qui vient étudier dans une université française, le coût de ses études en France est compté dans l'APD. Voilà. Et ça fait partie des 0,7% ou des fameux 14 milliards ou des 7 milliards d'aides bilatérales que nous déclarons officiellement. Et c'est régulier, il n'y a pas de triche. C'est la catégorie statistique le permet et on le fait. Alors il y a de nombreuses raisons pour lesquelles tout ceci a été aux origines de l'APD reconnu comme étant des dépenses légitimes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de conventions par derrière. Par exemple, dans l'aide publique au développement, on inclut le coût des restructurations de dette. Vous imaginez que quand on est dans de la restructuration de dette, il y a beaucoup de calculs actuariels, il y a beaucoup de virtuels, c'est l'essence même du calcul financier, donc on ne parle pas de transfert en cash. Pourtant, ça correspond, ces coûts sont inclus dans la mesure de l'aide publique au développement. Et en fait, je crois que c'est important aussi pour les auditeurs de voir qu'au final, on parle d'une dépense budgétaire très limitée pour l'État français, puisque la dépense budgétaire effective pour la France, elle représente environ, elle aussi, mais c'est une coïncidence de calcul, entre 7 et 8 milliards. On parle de l'ordre de même pas 1% du budget de la France. Mmh. C'est pas du PIB, du budget de la France. Donc les enjeux financiers sont marginaux et c'est ce qui soulève d'ailleurs l'indignation ou laisse les bras tomber lorsqu'on voit que cette aide publique a été sacrifiée dans l'ajustement budgétaire, parce qu'en fait il s'agit pas de loin d'une dépense significative pour la France.
Et de fait, ce sont deux chiffres qui ont été largement mis en contraste. Le fait que, effectivement, ces dépenses-là représentent 1% du budget de la France, mais portent 10% des réductions budgétaires qui avaient été décidées lors du PLF 2025. Et c'est un effet de contraste qui avait pas mal choqué. Alors, on en arrive là à la politique plus spécifique, effectivement, française en termes d'aide au développement. Alors, je voudrais vous faire écouter à cet égard, et dans ce contexte-là de réduction budgétaire qu'on vient d'évoquer, je voudrais vous faire écouter le directeur général de l'Agence française de développement, justement, Rémy Rioux, qui s'exprimait le 11 février dernier sur France Inter.
En fait, ce qui se passe aux États-Unis, par certains aspects, ce qui se passe aussi en Europe, c'est qu'on est devenu un petit peu mal à l'aise avec ces mots d'aide publique au développement. Le président de la République, il a proposé qu'on appelle ça investissement solidaire et durable. Pour entrer dans une logique plutôt d'investissement, c'est ce que nous demandent d'ailleurs les pays. Moi, je voyage 3 semaines sur 4. Quand je rencontre des dirigeants dans les pays, ils me demandent, venez investir dans notre développement, dans votre intérêt et dans le nôtre. Lions ensemble nos intérêts. Et je crois que c'est ça très profondément que fait une banque publique de développement comme l'AFD. Le président Trump, le jour où USAID a été fermé, ouais. il a nommé un Solomon Black qui est le nouveau patron de USDFC. USDFC, c'est une banque publique de développement spécialisée dans le financement des entreprises dans les pays du Sud, qu'il a créé lui-même dans son premier mandat. Donc vous voyez, oui, il y a un débat en ce moment entre une logique, je dirais, d'aide classique et une logique qui est plutôt une logique d'investissement. Il faut qu'on arrive à réconcilier ces deux mondes. Et en vérité, il y en a 530 dans le monde, des banques publiques de développement. Ça fait 2500 milliards de dollars d'investissement chaque année. Donc on est très très loin des 200 milliards de l'aide publique au développement. Et je crois que c'est dans ce monde, voilà, d'acteurs concrets, engagés, financiers, que va émerger ce nouveau cadre. Encore une fois, je respecte l'aide publique au développement, mais qui serait adapté à la géopolitique et à la taille finalement des enjeux comme le climat auquel nous faisons face. Vous savez, il y a eu en 2015 l'accord l'accord de Paris, les objectifs de développement durable. On n'a jamais mis en cohérence le cadre financier, les instruments, notre réflexion. Et par certains aspects, ce choc qui nous vient des États-Unis nous oblige probablement à accélérer dans la structuration et le récit aussi qui va avec, qui n'est plus un récit exactement d'aide, je pense, mais encore une fois d'investissement solidaire.
Samuel Guérino, on entend beaucoup de choses dans cet extrait, mais notamment et surtout peut-être cette notion d'investissement qui est très forte dans ce discours qui est porté notamment donc par l'AFD. Dans quelle mesure, alors on a commencé à l'évoquer, mais dans quelle mesure est-ce là véritablement une nouveauté que de vouloir dire « lions ensemble nos intérêts et investissons » plutôt que cette logique de don qui pouvait prévaloir, même si on a dit que c'est une part beaucoup moindre, bien moindre de cette aide au développement. Dans quelle mesure est-ce là vraiment un discours nouveau, une sorte de nouvelle musique qui monte, Samuel Guérino ?
Alors, c'est pas vraiment nouveau, puisque c'est à la fois le constat que les montants disponibles pour faire de l'aide publique au développement au sens strict sont tout petits par rapport aux besoins, ça c'est quelque chose qui est bien identifié depuis longtemps et encore plus depuis la définition des objectifs du millénaire pour le développement puis les ODD. Donc on sait que l'aide publique ce sera toujours petit et puis on sait que naturellement les trajectoires de développement à long terme, eh bien c'est une complémentarité très forte entre des flux, des financements et des projets publics, et puis un entraînement du secteur privé. Donc, cette idée qu'il faut catalyser, qu'il faut une complémentarité forte privé-public, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a déjà pas mal émergé dans les années 80-90 et qui ressurgit maintenant, disons. Donc, c'est des termes qui, on peut dire que le poids, l'emphase est plus mise dessus, mais c'est pas complètement nouveau et c'était un peu une manière aussi de relégitimer l'aide publique au développement, en disant c'est pas uniquement pour des motifs éthiques, c'est aussi parce que en fait ça correspond à nos intérêts à long terme de contribuer à des trajectoires de développement qui vont bénéficier à l'ensemble des pays du monde.
Nathalie Ferrière, ce terme de lier ensemble est important puisque, alors on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a cette notion de vouloir délier justement cette aide publique au développement d'une quelconque forme d'intérêt. Pourquoi l'AFD remet à ce point en avant ce rôle de banque, finalement ce rôle du prêt ? Est-ce que c'est parce que c'est de fait considéré comme l'outil le plus efficace, plus que de l'aide budgétaire directe ? Est-ce que la littérature économique a une opinion là-dessus ? Elle peut nous fournir des réponses sur, encore une fois, cette question de l'efficacité.
Alors, sur l'efficacité, on n'a pas tant de papiers, à ma connaissance, qui regardent l'efficacité relative de l'aide budgétaire à celle du soutien via des projets. Mais à mon avis, l'idée aussi de passer par ce discours sur l'investissement, ça va dans une dynamique qui est aussi celle des discours sur la mobilisation des revenus des États bénéficiaires et l'idée de développer aussi dans le pays bénéficiaire un système fiscal qui permette de mobiliser non seulement des ressources extérieures, mais aussi des ressources domestiques pour pouvoir se développer avec cette idée de complémentarité entre des investissements privés extérieurs, des investissements publics extérieurs, que ce soit par de la dette ou par de l'aide publique au développement, et avant tout de la mobilisation de ressources locales.
Jean-Michel Severino, on l'entendait donc, Rémy Rioux se défend d'avoir recours à des aides budgétaires directes. Il met l'accent sur le financement de projets, alors que ce soit d'infrastructures, d'éducation, etc. Très concrètement, quels sont les critères pour valider un projet en tant qu'acteur financier, ce qu'est l'AFD ?
Oui, en fait, je crois qu'il n'y a pas d'opposition. Ces instruments, ils sont utilisés dans des circonstances différentes pour des objectifs différents. Par exemple, je crois que c'est une évidence que l'aide humanitaire, elle va demeurer très importante pendant très longtemps. Nous vivons dans un monde qui est agité de crises, d'ailleurs que ce soit des crises naturelles, des événements naturels très graves, le réchauffement climatique va les accélérer, des crises humanitaires liées à des guerres, des conflits. On va pas financer le secours aux populations en difficulté avec des prêts. Et on va pas le financer non plus avec un esprit de retour. Ou alors un esprit de retour qui est très global, qui est qu'on n'a pas intérêt à avoir des populations désespérées sur la planète. Donc l'aide humanitaire, elle va continuer à être financée, à être très importante, financée par des dons privés ou publics, désintéressée et gouvernée par la notion de secours aux populations.
Lorsque, je pense qu'on va, lorsque cela répond à une forme d'urgence.
Et même moins d'urgence, parce qu'il y a des populations qui sont durablement dans des situations de crise. Pour les populations qui sont déplacées par rapport à des conflits, je pense par exemple à toutes celles qui sont déplacées au Soudan actuellement, on sait qu'elles vont être là pendant des années. Et on va être là pendant des années. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui conteste le fait que ça soit le cas. Donc voilà, il n'y aura pas de prêt, etc. À l'autre extrémité de l'échelle, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, pour le groupe de l'AFD, pour le relier à une préoccupation précise, les activités de prêt ont beaucoup augmenté ces dernières années. Si on veut aller financer chemin de fer de banlieue, au Brésil, au Kenya, pour des raisons qui sont très étroitement liées aux problématiques d'économie carbone et de décarbonation de la croissance économique, ça fait sens de le faire avec un prêt, parce qu'il y a par derrière une rentabilité économique, et ça fait un sens de le faire avec un prêt bonifié, parce que c'est le fondement même du métier d'une banque de développement, le fondement même d'une métier de banque de développement depuis qu'elles ont été inventées avec la Banque mondiale au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'emprunter pas cher, en bénéficiant du track record financier de l'institution. Dans le cas de la Banque mondiale, c'est la mutualisation de tous les pays de la planète qui fait que c'est le pays qui, c'est l'institution qui va emprunter le moins cher de toute la planète. Ou dans le cas de l'AFD, c'est le crédit de l'État français qui lui permet de se porter sur les marchés et d'emprunter à des conditions favorables, de reprêter cet argent à un pays qui emprunterait à des conditions moins favorables, et de prendre en quelque sorte sur soi ce différentiel de crédit, ce qui va permettre aux pays bénéficiaires d'investir plus fort. Donc ce qui peut troubler, c'est qu'au fond, la dynamique de ces prêts, cette activité de prêt, elle est liée d'une part au capital, en l'occurrence de l'AFD, et d'autre part à sa capacité à emprunter, ce qui lui permet d'accéder à des volumes très importants et de pouvoir...
D'où les tarifs préférentiels, entre guillemets.
Alors que les subventions, elles sont strictement liées à ce que l'État français
peut mettre au nom de
l'institution. Donc là, l'institution, elle n'a aucune marge de manœuvre, elle prend ce que l'État français veut bien lui donner. Bon. Et elle va utiliser ça pour l'aide humanitaire ou dans les pays les plus pauvres sur lesquels il n'y a aucune solvabilité, mais où nous souhaitons quand même pouvoir intervenir. C'est le cas dans beaucoup de pays pauvres d'Afrique subsaharienne, où pour des raisons de stabilité politique, pour des raisons de réduction des flux migratoires, on va vouloir renforcer la croissance économique du pays, améliorer les indicateurs sociaux du pays, mais on va pas pouvoir le faire en prêtant, parce que tout simplement il n'y a pas de solvabilité dans le pays.
Samuel Guérino, on comprend la façon dont fonctionne de fait l'AFD. Est-ce une façon, effectivement, finalement, on le comprend, une façon d'octroyer ces crédits à moindre coût pour ceux qui vont contracter de fait ce crédit-là? Est-ce que finalement c'est un modèle qui fonctionne et qui a fait ses preuves?
Bien, je pense que ça a été dit à la fois par Nathalie Ferrière et Jean-Michel Severino. C'est vraiment une boîte à outils qu'il faut utiliser. Faut utiliser tous les instruments de la boîte à outils en essayant de s'adapter au mieux aux contraintes et aux objectifs de ce qu'on veut faire. Donc il y a une partie des objets qui effectivement demandent du don, et donc ça coûte cher et donc on est fortement contraint. Mais pour toute une série d'actions qui peuvent avoir des complémentarités, une complémentarité avec le privé, des rendements financiers, eh bien la bonne manière de faire, c'est effectivement d'utiliser ces crédits, et c'est pas un problème en soi, puisque c'est finalement une manière de pouvoir faire plus en utilisant un effet de levier, ce qui est le travail normal d'une banque.
Jean-Michel Severino, très rapidement avant de terminer cette émission, un élément de contexte. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a publié le 8 février dernier un décret instituant une commission d'évaluation de l'aide publique au développement chargée de vérifier les coûts de gestion et la cohérence de la stratégie française en la matière. Est-ce que c'est un coup de tonnerre ou est-ce que c'est finalement la procédure normale?
Non, en fait c'est une disposition qui avait été prévue dans la loi de programmation de 2021, qui avait été votée à l'époque à l'unanimité par l'Assemblée nationale, mais qui n'avait jamais été activée. Donc je dirais qu'il qu'il était grand temps que la représentation parlementaire et d'ailleurs les autres parties prenantes se réunissent pour discuter de l'efficacité. Je crois que, sans être trop long, je crois que de toute façon, il y a des tas de questions légitimes à se poser.
Ce sera le mot de la fin qui ouvre effectivement beaucoup de perspectives. Merci beaucoup Jean-Michel Severino, Samuel Guérino et Nathalie Ferrière d'avoir participé à cette émission.